Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Écoutez Radion, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Wagon Livre, nouveau numéro de notre rendez-vous littéraire avec une journaliste du grand quotidien Le Monde. Je m'incline avec respect devant ce grand organe de presse français que j'ai tant lu quand j'étais collégien et lycéen. Et c'est Laure Gasparotto qui nous accompagne jusqu'à midi aujourd'hui sur votre radio locale. Laure Gasparotto, bonjour. Merci d'être en notre compagnie aujourd'hui.
Bonjour Yannick, c'est moi qui vous remercie de me convier à votre micro. J'espère que vous lisez toujours Le Monde, parce que vous dites que vous le lisiez adolescent, mais est-ce toujours le cas ?
Je le lis moins maintenant, parce que j'ai beaucoup de lectures avec le wagon livre de Radion, et c'est vrai que je lis beaucoup moins de presse, même très peu d'hebdomadaires, je dois avouer.
Ah, c'est un quotidien.
Je lis la tristesse.
Le Monde est un quotidien du soir.
Oui. Mais nos enseignants nous le recommandaient. Hein. Bon, j'ai plus de 50 ans. Nos enseignants nous le recommandaient. Grand journal fondé par Hubert Beuve-Méry, dont on peut rappeler le nom au passage. Hein. Journal né à la Libération.
Exactement.
Alors, je vous présente Laure Gasparotto, donc journaliste au Monde, spécialiste du vin depuis plus de 20 ans. Vous êtes une dégustatrice reconnue et auteure de plusieurs ouvrages sur le vin. Votre Atlas des vins de France est l'ouvrage de référence sur les vignobles français.
Oui, c'est vrai. C'est l'Atlas officiel du vignoble français, relu et validé par l'Institut National des Appellations d'Origine. Et j'ai une grande fierté puisqu'il va être réédité cette année, à la fin de l'année, par les éditions du Michelin qui ont racheté l'Atlas à mon petit éditeur de Monza. Et donc là, on va avoir enfin un Atlas actualisé fin 2026.
Alors chez Grasset, vous avez publié, entre autres, Le jour où il n'y aura plus de vin, avec le pépiniériste Lilian Berillon. On vous doit aussi La mécanique des vins, et puis un récit personnel vigneronne, parce que vous allez, bien sûr, à la rencontre des vignerons, des producteurs, mais vous mettez parfois la main à la pâte.
Exactement, hein, oui.
Tailler la vigne, vous savez ce que c'est.
C'est vrai, pendant 5 ans, j'ai été vigneronne. Je me suis tombée amoureuse de parcelles magnifiques de Syrah, Grenache et Carignan, dans les terrasses du Larzac, un territoire très calcaire et qui vraiment a été magnétique pour moi. Donc, je ne pouvais pas ne pas acheter les parcelles en question. Quand j'ai demandé le prix, elles étaient accessibles pour moi. Et ça m'a fait penser à une amie vigneronne de Champagne. Quand je lui ai dit le prix, elle croyait que c'était juste pour un rang de vigne. Parce qu'en Champagne, il faut quelques zéros de plus que dans le Languedoc pour devenir vigneron.
Alors, vous êtes bourguignonne d'adoption, d'une certaine manière.
Ah oui. La Bourgogne a tellement de racines qu'elle m'en a offert assez pour poser mes valises quelque temps. J'ai acheté une maison à Beaune et puis une autre à Meursault. Et puis aujourd'hui, je n'ai plus rien en Bourgogne, mais j'ai beaucoup d'amis. Et voilà, je suis même là parmi vous grâce à ces amis en question.
Je mentionne aussi votre essai « Si tu veux la paix, prépare le vin ». Mais aujourd'hui, coup de projecteur donc sur votre dernier travail chez Grasset, qui a pour titre « Quand l'Orient inventait le vin ». Vous revenez sur l'histoire méconnue des collines de Perse et de France. Alors dans ce dernier texte, beaucoup de rencontres, on y parle beaucoup de l'Iran, qui est sous le feu de l'actualité tragique, plutôt que heureuse, malheureusement. Et vous écrivez que l'objectif de ce dernier travail, Quand l'Orient inventait le vin, est de relier la civilisation orientale et la civilisation occidentale. C'est-à-dire que le vin n'est pas apparu spécialement en Europe. Il faut aller le découvrir plus de 10 000 ans en arrière, dans des régions... alors, il y a le Caucase, Géorgie, Arménie. Arménie, pardon, je confonds avec le couturier, non, c'est Arménie.
Ah oui, Arménie et Arménie.
Arménie. Et puis, des pays qui aujourd'hui sont notablement musulmans où le vin est interdit ont vu naître la vigne. C'est historique, c'est incontestable.
Ah, c'est incontestable, puisque aujourd'hui, on sait. Alors, vous savez, l'Empire perse, parce que vous parlez de l'Iran, mais l'Empire perse, c'est l'Iran et les pays alentours, allant jusqu'à la Géorgie et aux portes de l'Inde. L'Empire perse. Quand on parle de l'Empire perse de 5000 avant Jésus-Christ, c'est le plus grand empire du monde. Et d'ailleurs, depuis, il y a eu des empires, mais pas aussi grands que celui de la Perse.
Et une civilisation brillante qui célébrait à travers notamment les quatrains, les rubaïyats. Alors on dit Omar Khayyam, comment le prononce-t-on ?
Oui, c'est ça, on dit Omar Khayyam, qui est un astrologue, mathématicien du XIIe siècle, un astronome perse. Vous savez, c'est même lui qui a mis au point le calendrier actuel qui commence le 21 mars. Le 21 mars est le nouvel an iranien, le nouvel an perse, et qui s'appelle Nowruz. Et c'est d'ailleurs le jour où ce livre a commencé pour moi, puisque le jour de Nowruz, j'ai reçu un vin dit perse fait à Bergerac. Et voilà, c'est comme ça que commence ce livre.
Effectivement, donc c'est une bouteille que vous envoie un néo-vigneron de 45 ans, que vous ne connaissez pas encore. Vous êtes chez vous, vous travaillez en plus sur un article essentiel sur le vignoble israélien, sur les vins israéliens. Et puis, la tentation est là de découvrir ce que contient le flacon.
Ah voilà, écoutez, je suis très curieuse. Il fallait absolument que je rende mon article dans les temps. Et en même temps, parce que à ce moment-là, j'étais très intéressée déjà par le côté oriental du vin. Et c'est la raison, une des raisons pour laquelle j'étais allée en Israël, pour voir un peu ce bassin d'origine. On pense toujours que l'origine du vin est grecque. Et en fait, avant les Grecs, le vin était perse. Israël, enfin ce qui est Israël aujourd'hui, faisait aussi partie de l'Empire perse. Et donc je revenais de ce reportage, j'étais en train d'écrire cet article, quand je reçois cette bouteille. Et en effet, j'ai quand même le devoir avant tout. J'ai fini mon article et j'ai enfin ouvert la boîte de Pandore.
Alors cette bouteille a une étiquette, comme toutes les bouteilles de vin, et vous y reconnaissez le tombeau d'un grand roi de l'Empire perse, c'est le tombeau de Cyrus, qui est le fondateur de l'Empire perse.
Oui, avec une date, 559, qui est la date, en fait, de la première déclaration des droits de l'homme faite par Cyrus. C'est un rouleau, en fait, d'écriture cunéiforme. Et d'ailleurs, cette bouteille que j'ai reçue était dans un cylindre et autour de ce cylindre était repris cette écriture cunéiforme. Aujourd'hui, ce document très précieux est conservé au British Museum à Londres. Et c'est vraiment la preuve que au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand Cyrus crée l'Empire perse avec plusieurs satrapies, c'est-à-dire des pays différents, il a accepté la différence des religions, la différence des ethnies pour créer une unité, cette unité perse. Et c'était quelque chose d'absolument unique à ce moment-là.
Alors ce cylindre de Cyrus, justement, ce texte est un texte en fait, qui condamne l'esclavage, qui invite au respect des cultes et à la sécurité des populations. Alors, on est très très loin. Là, cette Perse n'a pas été conquise ni par la culture arabe, ni par l'islam.
Alors, elle a été conquise par l'islam au 7e siècle, bien après, c'est-à-dire 12 siècles après 559. Là, je parle de 559 avant Jésus-Christ, et l'islam est arrivé au 7e siècle. Donc, l'esprit perse, en réalité, n'a jamais disparu. Et aujourd'hui, vous parliez de l'actualité en Iran aujourd'hui, mais en fait, l'esprit perse est un esprit de résistance et qui, en fait, est illustré aussi et symbolisé par le vin. Parce que dans l'esprit perse, qui précède l'islam, le vin Le vin fait partie d'un rituel, fait partie aussi du savoir-vivre ensemble. C'est aussi la représentation d'un certain luxe. Les différents représentants des satrapies, quand ils vont une fois par an pour le nouvel an voir leur roi, ils apportent les meilleurs vins de l'Empire. C'est vraiment la représentation de la plus grande des civilisations. Le vin représente la civilisation à ce moment-là déjà. Et quand l'islam arrive et veut interdire le vin, c'est impossible en fait. Le vin finalement est toléré parce que à ce moment-là, du 7e siècle jusqu'en 1979, au moment où les mollahs arrivent au pouvoir, si le vin est interdit, il est néanmoins toléré. Vous savez, juste avant 1979, il y avait 300 000 hectares de vignes en Iran. C'est-à-dire presque autant, le double du vignoble bordelais, je pense. Donc c'est immense. Et dès que les mollahs arrivent en 1979, ben qu'est-ce qu'ils font ? Ils font arracher le vignoble. Et là, en fait, il y a une vraie interdiction. Aujourd'hui, si vous êtes pris à boire du vin en Iran, vous pouvez avoir des coups de fouet ou même être condamné à la prison. Il existe hein, d'ailleurs des gens qui font du vin au fond de leur jardin. Il y a un vin qui est fabriqué de manière, sous le manteau comme on dit. Et d'ailleurs Masrour Makarimi qui m'a envoyé cette bouteille et qui est né à Shiraz en Iran se souvient d'avoir vu des personnes aller au marché acheter des légumes. Et des fruits, parmi lesquels du raisin, et puis ils allaient à droite et à gauche jusqu'à accumuler chez eux au moins 10 kilos de raisin, 10 ou 20 kilos de raisin, pour pouvoir presser leurs raisins et faire leur vin. Alors je ne vous dis pas que c'est bon, mais il y a l'esprit du vin qui perdure.
En tout cas, on comprend bien, et on y reviendra, que le vin est un produit culturel. On y reviendra, je rappelle que c'est Laure Gasparotto qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radion. Son dernier ouvrage, paru chez Grasset, a pour titre « Quand l'Orient inventait le vin ».
انا قلبي غيبك وقتاتي هنالي نالي تدي الحكومة والناس تشوف اياي يلي توحشك اي كراني راني يلي توحشك انا قلبي غيبك اياي ناري ناري ودارتي الحكومة والناس تشوف يا 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 embrasse Marie pour moi mais ne lui en parle pas ce que j'ai fait et où je suis N'en dis rien à Marie. Tu peux lui dire que je suis mort, que je suis perdu en mer, que j'ai trouvé l'amour au loin. Yeah. embrasse ma chérie pour moi. Et surtout ne lui dis pas. Embrasse Marie pour moi. Mais surtout ne lui dis pas. Enfermé là, dans ce cachot noir et froid, où j'ai perdu la foi. Oh, ne lui dis pas. Que je suis enfermé là.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Laure Gasparotto, nous avons déjà bien entamé notre échange en parlant de l'Empire perse. J'aimerais qu'on revienne sur ce mathématicien et astronome donc, qui a vécu au XIe et XIIe siècle. Hein, il est mort précisément en 1122, Omar Khayyam, parce que c'est tout à fait merveilleux de constater que cet homme, alors peut-être sous l'emprise de l'alcool parfois, a écrit des quatrains qui sont aujourd'hui traduits bien sûr en langue française, mais des quatrains qui valorisent la liberté, l'amour et le vin, tout ce qui dans l'Iran de ce régime théocratique des Mollahs a volé en éclats depuis la révolution de 1979, comme disent nos amis suisses.
Oui, en fait, au départ, je voulais même faire la biographie de Omar Khayyam, parce que je trouvais que c'était un personnage tellement complexe, tellement riche, et puis les sources manquent, et j'ai du coup fait complètement autre chose, je me suis laissée aller à autre chose. Mais en effet, ces quatrains, ces roubaïats, puisque c'est le terme en perse qui est employé, sont à l'entrée de chacun de mes chapitres. Ceci dit, on connaît bien en France Omar Khayyam parce que c'est l'un des premiers poètes perses traduits en français, mais j'ai découvert qu'il y avait des poètes beaucoup plus importants en fait dans la culture de ce pays, c'est-à-dire par exemple Hafez, qui est le poète le plus grand des poètes persans.
Les postérieurs, hein.
Et postérieurs de un ou deux siècles, je crois. Et puis aussi Rumi, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, ce qui m'a plu aussi dans cette culture, c'est que la poésie et le vin sont totalement liés. Et la poésie est aussi importante que le vin. On pourrait penser que la poésie et le vin sont des objets de luxe. On n'en a pas besoin, pourrait-on penser. Or, dans la culture perse, ça fait partie des éléments majeurs de la civilisation. On ne peut pas imaginer vivre sans poésie et sans vin. Ils sont tellement essentiels d'ailleurs que, en fait, l'histoire, il y a une histoire dramatique dans mon livre. L'histoire dramatique, c'est l'histoire de la famille de Masrour Makarimi, qui est le fil rouge du livre. Donc, Masrour est né à Shiraz, en 1960, enfin, il avait 5 ans en 1979, donc il est né en 1974. Et en 1979, ses parents font une manifestation dans les rues et sont poursuivis par la police. Le père réussit à s'échapper, mais la mère est emprisonnée. Et elle fait 8 ans de prison, et au bout des 8 ans, elle est assassinée parmi d'autres, on sait pas exactement, elle est morte en prison en tout cas. Et sa sœur aussi avait été mise en prison et est morte quelques mois après les premiers jours de sa détention alors qu'elle était enceinte. Donc il y a vraiment quelque chose de dramatique dans l'histoire de Masrour. Et en fait, pour survivre à 8 ans d'emprisonnement, où elle est contrainte au silence, j'imagine une scène, c'est tout un chapitre, où en fait elle survit grâce à la poésie. Et la poésie fait partie de son... Elle récite de la poésie pour ne pas tomber dans la barbarie de ses geôliers. Et en fait, cette poésie, je l'ai retrouvée aussi, vous savez, chez... ce journaliste français qui a été emprisonné à Beyrouth, Jean-Paul Kaufmann, et qui récite...
3 ans de captivité, donc enlevé à Beyrouth en 1985, 1078 jours d'emprisonnement.
Et lui, heureusement, n'est pas mort en prison, et il a pu nous rapporter à quel point l'esprit de la poésie le maintenait en vie. Dans une vraie vie, en fait, dans la vraie vie au-delà du corps, dans la vie, dans une vie d'esprit, celle qui est là pour lutter contre l'inhumanité, contre l'animalité peut-être de ceux qui nous emprisonnent.
Parce qu'effectivement, vous expliquez les persécutions des opposants au régime de la République islamique, hein, des années 80-81, des choses terribles, des femmes enfermées dans des sacs avec des cafards. Ce qui m'a aussi beaucoup choqué, vous expliquez que par exemple, on leur mettait le voile sur la tête et pour qu'ils tiennent bien, on le punaisait à même le ouais. crâne. Et puis il y a ce supplice affreux où vous racontez qu'avec le visage, on leur frottait les joues avec du papier de verre, c'est ça, pour raboter les chairs.
Alors tout ça, on le sait parce que parmi les sources que j'ai pu avoir pour écrire ce livre, j'avais le journal intime du grand-père de Masrour Makarimi, dont les deux filles ont été emprisonnées. Il allait les voir tous les jours en prison et il avait tenu un journal intime qu'il avait caché sous son escalier. Et la sœur de Masrour a retrouvé par hasard ce journal. La sœur de Masrour n'avait que quelques mois quand leur mère a été emprisonnée. Et c'est les grands-parents qui ont élevé les enfants, en fait. Donc, quand la mère a été emprisonnée, Masrour avait 5 ans et sa sœur 5 mois. Et le miracle, en fait, de ses enfants, c'est que le père a réussi à se sauver, à marcher, on ne sait pas comment, enfin, en tout cas, il a fini quelques années plus tard à arriver en France, où il est devenu réfugié politique. Et au bout de 5 ans, le père a pu récupérer ses enfants et les faire venir en France. Donc Masrour est arrivé à l'âge de 10 ans en France, il ne parlait pas un mot de français. Sa sœur est arrivée à l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui, c'est incroyable, lui est devenu un chirurgien, un neurochirurgien de dentiste.
Spécialiste en orthodontie.
Voilà, spécialisé en orthodontie.
Ils sont brillants, la sœur,
Ils sont brillants. Lui est devenu un des grands spécialistes de l'intelligence artificielle appliquée aux gestes médicaux, mais au niveau mondial. Hein, on le fait venir, on lui envoie un avion pour l'envoyer aux États-Unis ou en Australie. Il est devenu vraiment très, très brillant. Et sa sœur est devenue chercheuse au CNRS où elle est anthropologue. Et même l'année dernière, un de ses ouvrages, puisqu'elle écrit des livres, a été sélectionné dans un prix littéraire. Et puis, bon, dans la liste, elle était finaliste d'un prix littéraire. Elle ne l'a pas eu, mais tout de même.
Donc je rappelle, Masrour, donc c'est celui qui vous envoie cette bouteille, cette cuvée de Cyrus, date symbolique qui est le début du calendrier de l'Empire perse. Vous dégustez ce vin et surtout, donc cet homme brillantissime, c'est une activité
totalement
qui fait
annexe.
Par passion, c'est ça en fait. Il ne cherche pas à s'enrichir.
Ah, pas du tout.
Mais
pour
le projet, c'est de faire renaître l'originalité de la Syrah, donc ce cépage, dans le sol du Périgord pourpre.
Exactement, parce que en fait, la Syrah n'a rien à faire là. Mais le mot Syrah lui rappelle la ville de Shiraz. On ne sait pas aujourd'hui si la Syrah est originaire de Shiraz, mais là on rejoint la poésie, c'est la sonorité qui fait penser à l'origine perse.
Alors les efforts qu'il fournit pour élever sa vigne, il faut qu'elle vieillisse encore un peu pour s'améliorer, même si vous l'avez dégusté. Vous êtes pâmé d'admiration devant un tel breuvage. Mais je vous cite, Laure Gasparotto, vous écrivez, en parlant donc du vin de Masrour Makarémi, son vin, en fait, est une revanche, une victoire, un acte de résistance ultime. Et d'ailleurs, vous lui posez aussi la question par rapport à la mère torturée et morte dans les geôles en Iran où elle a été emprisonnée. Donc lui aussi a perdu sa mère. Il a été orphelin de mère très très jeune. Vous lui posez la question, comment faites-vous le lien entre votre mère et le vin? Parce que la mère, c'est le lait maternel. Mais là, le lien entre la mère et le vin.
Oui, parce qu'en fait, la terre-mère, en fait, on revient à la terre-mère, et le vin est un fluide et qui parle à tous les sens. Et c'était incroyable parce que il a 2 hectares, il a planté 2 hectares de Syrah. Donc je suis allée voir, en effet, cette vigne. Et là, puisque nous sommes en Bourgogne, il faut vraiment que je fasse un parallèle.
Alors attention, l'émission est diffusée dans Lyon, mais aujourd'hui, nous enregistrons cette émission, effectivement.
Mais Lyon fait partie de la Bourgogne.
Lyon fait partie de la Bourgogne, oui.
La Bourgogne a 4 départements,
oui.
N'est-ce pas?
C'est vrai, c'est
Et
vrai.
Et Lyon fait partie de la Grande Bourgogne. Mais la Bourgogne, en fait, vous savez, bon, même si dans Lyon, il n'y a pas les climats de Bourgogne qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au climat de Bourgogne quand j'ai vu ces 2 hectares de vignes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 2 hectares sont une zone délimitée. Et ça m'a rappelé 2 choses. Le tapis perse, le tapis persan et le climat. Qu'est-ce que c'est le tapis persan? Le tapis persan est délimité aussi. C'est une zone, vous savez, ce qu'on appelle aussi le paradis, le paradé. Le paradé est un mot perse, c'est-à-dire que la chrétienté a absorbé aussi des mots persans. Le paradé, le paradis, c'est ce jardin, ce carré délimité sur lequel se met le prince, ou symboliquement le tapis sur lequel s'assoient la grand-mère et les petits-enfants pour raconter des histoires. Et donc, quand on parle de tapis volant, on s'assoit sur un tapis. Venez avec moi sur le tapis, je vais vous raconter des histoires et on va s'envoler ensemble dans un pays imaginaire. C'est ça, le tapis volant. C'est donc, vous savez, ça, on revient à ça. Et pourquoi est-ce que ça m'a également... Enfin, j'ai une espèce vraiment d'épiphanie quand j'ai pensé à tout ça. C'est que le climat aussi est un carré délimité. À l'intérieur du climat, il se passe quelque chose qui ne se passe pas à l'extérieur. Et en fait, j'ai découvert, grâce à la poésie perse, le mot « climat ». Et le mot « climat » est également persan. Et donc, moi qui revenais d'Israël... où j'ai imaginé tous les chevaliers bourguignons partant dans les croisades, forcément, ils ont été confrontés au langage et à la culture perse dans leur voyage. Et donc, en revenant, ils ont ramené aussi ce langage. Même si le mot « climat » n'apparaît officiellement qu'au XVIe siècle en Bourgogne, je ne peux pas m'empêcher de penser que les cisterciens, qui étaient des gens très érudits, connaissaient donc tous ces mots. Et donc, pourquoi pas, en revenant à la question du début que vous me posiez entre l'Orient et l'Occident, nous sommes allés avec faire des croisades en Orient, d'où nous sommes revenus avec une religion, des réponses à notre religion. Et donc, en effet, l'Occident et l'Orient sont mêlés. Et pour revenir à la Bourgogne, les ducs de Bourgogne étaient les ducs d'Occident. Ils s'appelaient eux-mêmes les ducs d'Occident pour se distinguer de l'Orient. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a eu une césure entre l'Orient et l'Occident. Mais avant... En fait, tout était lié.
Laure Gasparotto, je rappelle le titre de votre dernier essai, « Quand l'Orient inventait le vin », c'est aux éditions Grasset. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, spécialiste du vin depuis plus de 20 ans, une dégustatrice reconnue et auteur de nombreux ouvrages. Et je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de l'Atlas des vins de France, qui est l'ouvrage de référence donc sur les vignobles français. Vous nous accompagnez jusqu'à midi dans Wagon Livre sur Radio Non-Marque. Petite virgule musicale, et on se retrouve après sur notre tapis, si vous le voulez bien, notre tapis persan, volant, je ne sais pas, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is truly mine. If my life
goodbye. Well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. If my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve. Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Laure Gasparotto est notre invitée. Je rappelle le titre de son ouvrage, Quand l'Orient inventait le vin. C'est en librairie et c'est aux éditions Grasset. Juste avant la virgule musicale, nous parlions du tapis, qui est un objet important. Alors, ce qui est très intéressant, c'est aussi cette rencontre. Vous rencontrez à la fois donc cette cuvée Cyrus de Masrour, donc brillant, on va dire, allez, brillant médecin, enfin spécialiste de la dentition, de la réparation éventuellement des bouches et de la face, qui cultive donc 2 hectares d'une vigne qu'il fait renaître, hein. Donc c'est un néo-vigneron, il fait ça en amateur, mais surtout par passion. Il y a quelque chose qui fait battre son cœur, qui ravive sans doute aussi des souvenirs avec l'Iran qu'il a pu fuir pour venir en France. Sur le tapis, il y en a chez lui, dans sa belle maison, non loin de Bergerac. Et alors surtout, ce qui est... Il y a toute une collection d'objets. D'ailleurs, vous, c'est intéressant parce que vous rappelez combien les objets parfois nous accablent. Alors, il y a le lien affectif qu'on a avec un objet. Et puis, parfois, quand on déménage, on se dit, mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai tout cela à la maison? Mais il y a surtout, alors ce qui m'a beaucoup surpris, c'est une armoire en forme de cercueil qui a du sens pour votre néo-vigneron.
Oui, parce que cette armoire, c'est la seule chose qui lui reste de sa mère. Et c'est une espèce de mausolée, petit mausolée très rudimentaire, dans lequel il a conservé le peu d'objets, c'est-à-dire une paire de chaussures, une montre.
Un
gobelet en plastique, le gobelet qui a servi à sa mère en prison.
Des allumettes,
une cuillère. Vraiment, c'est des petits objets qui rappellent sa mère. Et en effet, il collectionne les objets de son pays, des vases, des petits animaux, des amulettes, des choses qu'il trouve en vente aux enchères pour se créer une histoire, parce que
de sa vie. C'est pas de la pacotille, parce qu'il y a certains objets qui sont très anciens qui peuvent quand même valoir.
Ah oui, ce sont des vrais objets qui racontent quelque chose. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est tourné vers le passé. C'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est que jamais, avec Masrour Makarimi, il n'y a de tristesse ou de haine ou de ressentiment. Pas du tout. Il est tourné vers le futur. Et ce qu'il fait là, en ce moment, c'est précisément pour peut-être un jour replanter de la vigne, parce que c'est quelqu'un qui a gardé la foi, qui a toujours de l'espoir.
Et ça, avec la transmission possible au fils, qui est encore
voilà,
très jeune.
Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que il a réussi, il est très intelligent, il a réussi à se rendre... vous savez, on a en France le plus grand conservatoire du monde des cépages. Et dans ce conservatoire, qui appartient à l'INRA dans le sud de la France, il y a une trentaine de cépages d'origine iranienne qui ont été prélevés dans les années 70 avant la chute des moulas. Donc c'est-à-dire qu'il y a des techniciens qui étaient allés en Iran et qui ont trouvé de vieux cépages qu'ils ont ramenés et qui sont conservés dans ce conservatoire. Et là, ce qui est fabuleux, c'est que cette année, là, ce printemps, Masrour va encore plus loin. Dans un premier temps, il a planté de la Syrah parce que le mot lui rappelait son pays d'origine. Mais là, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment prendre des cépages autochtones qu'il vient planter chez lui pour faire des micro-cuvées d'un vin qui va pouvoir, peut-être un jour, on ne sait jamais, on peut imaginer qu'un jour ces mots-là chutent et que le vin puisse renaître sur les collines de Shiraz. Et donc là, ce printemps, il a replanté une trentaine de cépages avec l'aide des scientifiques de l'INRA français. Mais on va plus loin, c'est-à-dire que quel est l'intérêt pour l'INRA français d'aider quelqu'un comme ça qui plante quelques cépages dans son jardin ? Eh bien, lui qui est lui-même scientifique, il dit « Nous avons un réchauffement climatique, les vignerons du Sud sont confrontés à la sécheresse, à une baisse de rendement. En exploitant à nouveau, pour de vrai, ces cépages, en recréant des micro-cuvées, pourquoi pas redécouvrir des cépages qui pourraient nous servir à nous en France, plutôt que d'en créer de nouveaux en laboratoire ? Et parce que ces cépages ont l'habitude d'avoir plus de 50 degrés, même si les vins de Shiraz, on le sait, sont plantés à 1300, 1500 mètres d'altitude et ont une certaine fraîcheur, néanmoins, ils sont capables, ce sont des végétaux qui sont capables de résister à des amplitudes extrêmes de température. Donc, vous voyez, c'est très poétique. Mais encore une fois, on rejoint Omar Rayam de la poésie, on reste aussi proche de la science. Et c'est ça qui me fascine dans cette culture, dans cet esprit perse, la poésie n'est jamais loin de la science.
Ce qu'il faut souligner aussi, c'est la conservation du vin, parce que Masrour, il conserve son vin tel qu'on devait le faire dans son pays. Alors vous expliquez quand même que la bouteille est apparue en Perse bien avant que d'apparaître en France. En France, la bouteille, c'est Jean-Robert Pide qui a écrit toute une histoire de la bouteille de vin.
Oui.
Mais en France, la bouteille de vin apparaît au XVIIIe siècle.
Oui, alors l'origine de la bouteille est britannique. On la doit à un Anglais. Au XVIIe siècle, elle s'est développée après plus industriellement au XVIIIe siècle, notamment pour transporter le champagne, puisque l'effervescence, elle ne peut naître qu'en bouteille, elle peut pas naître dans des fûts, puisque on a transporté le vin en fût jusque dans les années 1970, hein, et ce sont les cavistes qui mettaient le vin en bouteille dans les villes. Mais pour transporter l'effervescence, il nous fallait des bouteilles. Donc, en effet, pour dire encore une fois qu'on croit avoir tout inventé en Occident, que le vin est né ici, que la bouteille est née là, ben, pas du tout. En fait, il y a une antériorité vraiment indiscutable sur la naissance du vin et sur la naissance de la bouteille, puisque la Perse est aussi un royaume pour le parfum et que ce sont d'abord le raffinement. Il y avait un raffinement tel que les parfums étaient dans des flacons très précieux. Et de là, on a pu aussi conserver le vin en bouteille, en tout cas pour le servir.
Alors, le vin était alors conservé dans des jarres de terre cuite, dans des fours, et certaines étaient couvertes de graisse de queue de mouton. Alors lui, Masrour, avec la bouteille qu'il vous adresse chez vous à Paris, il y a aussi des pistaches qui flottent dans de l'eau.
Ah non, pas du tout. C'était une boîte de pistaches qui a accompagné la... Mais c'était pas... Non.
D'accord. Alors, mais les pistaches, en revanche, elles ont un lien avec la conservation du vin que conçoit Masrour.
Alors non, je ne pense pas.
Mais je croyais qu'il y avait quelque chose de l'ordre dans l'histoire de l'Empire perse où on enduisait les jarres.
Alors c'était avec du mastic de Chios qu'il a réussi à retrouver. Et ce mastic de l'île de Chios est très rare. Et en fait, il a voulu en effet, et il le fait chaque année, il rebadigeonne ses amphores, enfin ses jarres plutôt, de ce mastic pour imperméabiliser le contenant.
Alors justement, il y a des pages sur contenant et contenu. Vous évoquez Philippe Stark, par exemple, qui avait été sollicité par les vignerons, les producteurs de vin rosé de Nîmes pour concevoir une bouteille. Mais finalement, vous dites que celui qui conçoit la bouteille, c'est ce que voulait Philippe Stark, il voulait aussi pouvoir participer à la fabrication du vin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre le vin dans n'importe quelle bouteille, il faut, selon Philippe Starck, avoir aussi contribué à la naissance du vin.
En fait, c'est vrai que l'expérience de ce vin m'a permis de me confronter au fait que, à l'origine, il n'y a pas de différence entre le contenant et le contenu. C'est-à-dire que la forme influe le fond. En fait, on parle toujours de fond et de forme, mais l'un et l'autre sont en harmonie, et y compris pour les fluides. Et on le sait, la forme du vin influe le goût sur son goût. La forme du verre, pardon, influe sur le goût du vin. Et là, en fait, quand on regarde la forme des contenants des 16e ou 17e siècle en Perse, on se rend compte à quel point c'était étudié, même au niveau de la matière. C'est-à-dire, quelle est la taque en bouche, quelle est la courbe du récipient, parce que la courbe du récipient permet de projeter ou non, ou d'être plus ou moins délicat, le liquide dans la bouche, sur le palais. Et de tout cela, en fait, on a des nuances de goût. Il y a une oxygénation qui se fait plus ou moins rapidement. Enfin, tout ça est extrêmement précis, en fait.
Et vous dégustez chez lui le vin du domaine de Cyrus. Je vous cite: dans cette coupe précieuse d'une légèreté surprenante qui n'a sans aucun doute pas servi depuis 300 ans. C'est pas anodin.
Ah non, ça c'est une expérience extraordinaire.
Alors ce qui est très très drôle aussi, vous évoquez un œnologue, Jacques Puiset, et il a été sollicité, lui, pour goûter du lait pour bébé. Et là encore, c'est très drôle, puisque la mise en valeur du contenant pour le contenu, lui il dit: ah oui, mais moi je veux bien goûter le lait. Mais là, je vous laisse nous expliquer ça, Laurent Gasparotto.
C'est vrai que je fais beaucoup de digressions dans ce livre.
Ah, mais c'est passionnant, justement.
Mais cette digression, en fait, c'était précisément pour montrer à quel point, quand on est scientifique précis, le goût est important. Et alors donc, Jacques Puiset, qui était un œnologue, avait été sollicité pour goûter des laits infantiles. Et donc, pour les goûter, il voulait se mettre à la place du consommateur. Or, qui boit du lait au biberon, ce sont les bébés. Donc il a goûté le lait au biberon.
Voilà, et il aurait dit: fournir, c'est moi des tétines.
Voilà, exactement.
C'est très drôle.
C'est amusant. Mais on peut le comprendre, parce que la façon dont le liquide arrive dans la bouche, eh ben, il y a une oxygénation différente, et tout ça s'étudie, en fait.
Je voudrais juste lire quelques rubaïades, donc quelques quatrains de notre Omar Khayyam. Veux-tu que ta vie repose sur une base solide? Veux-tu vivre quelque temps, ayant le cœur affranchi de tout chagrin? Ne demeure pas un instant sans boire du vin, et alors, à chaque respiration, tu trouveras un nouvel attrait à ton existence. Il y a celle aussi, alors c'est vrai que sa poésie tantôt le fait passer pour un épicurien, un mystique et un philosophe. Alors on va terminer là-dessus. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Quand l'Orient inventait le vin, donc Laurent Gasparotto, chez Grasset. La consommation de vin baisse en France. Et vous établissez un parallèle aussi avec le fait qu'il y a une décroissance de la lecture en France, et vous établissez un parallèle qui est audacieux, mais qui montre que tout va plutôt mal.
En fait, ce que je veux montrer, c'est que le vin fait partie d'une civilisation, d'une certaine civilisation. La même civilisation que celle des mots, que celle de l'écrit, que celle de la lecture, et donc de la poésie. Et que, en fait, tout cela est un ensemble civilisationnel. Et que si un des éléments décline, ben, en fait, le reste décline. C'est-à-dire que c'est une certaine humanité qui change. Et pour moi, le vin a toujours été le reflet de notre humanité. C'est-à-dire, le vin, vous savez, Alfred de Musset a dit: peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Or, moi, je montre tout le contraire. C'est au contraire, le flacon est très important, parce que selon le flacon, on va pas être dans on sera dans une certaine ivresse, mais on va pas chercher l'alcool. On va chercher la nuance, le raffinement, l'élégance.
La couleur aussi.
Couleurs, les parfums. Vous voyez, tout un monde imaginaire, en fait. Et le vin, et c'est ce que aussi va chercher Masrour, le vin, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est celui de son enfance, celui dont il se souvient quand il se promenait enfant sur les collines de Shiraz, où il y avait encore des vignes qui couraient dans les champs, enfin des vignes sauvages, qui étaient devenues sauvages, puisque lui est né après la... Enfin, oui, il devait y avoir encore un peu de vignes, mais c'était la fin, déjà, juste avant l'arrivée des Mollahs.
En tout cas, l'islam permet qu'on boive au paradis, mais pas dans la vie terrestre.
Alors, en fait, les Mollahs veulent vraiment éradiquer le vin. Et ils le font. Il n'y a plus de vignes. Mais l'esprit perse est toujours présent. Et dans la, il y a toujours, par exemple, Rafez, le grand poète Rafez, parle de vin. Et puis, dans le Coran, on parle de vin. Ce sont des mots qu'on n'a pas pu effacer du Coran. Mais les Mollahs, en fait, pour justifier que ces mots existent dans des œuvres qu'ils ne peuvent pas effacer, disent que, en fait, le vin représente le paradis. Le paradis, quelque chose qui n'est pas sur terre. Le vin, ça ne représente que quelque chose d'inaccessible, qui appartient à une divinité.
Alors, Rafez, vous en avez parlé, donc, ce Perse du XIVe siècle, qui est l'auteur du, on dit quoi, le Divan ?
Le Divan.
Ah, alors, a eu des admirateurs, Goethe, qui a appris pendant plus de 10 ans le persan, et également Nietzsche.
Et Nietzsche, voilà.
Et Victor Hugo l'admirait, paraît-il.
Et bien sûr, tout ça pour dire que, encore une fois, alors qu'on parle de grands écrivains occidentaux, eux-mêmes se sont rendus compte seulement à la fin de leur vie, parce que Goethe, c'est vraiment à la fin de sa vie qu'il a découvert, en fait, toute une origine orientale de notre culture.
Vous écrivez dans votre texte, Laure Gasparotto, « La vigne doit souffrir pour produire un grand vin ».
Bon, j'ai écrit
comment...
ça.
Oui. Le moment est venu peut-être développer un petit peu.
Alors, c'est amusant parce que, en effet, par exemple, la Chine se met à faire du vin. Vous savez, elle nous talonne de très près. Hein. On n'est qu'à quelques centaines d'hectares près dans la grandeur du vignoble. On est à 790 000 hectares en France et 750 000 hectares en Chine. Et en fait, c'est une culture en Chine qui est très récente, qui a une vingtaine d'années. Et ce sont les techniciens français qui ont aidé les Chinois à planter en Chine. Et d'abord, ils voulaient planter là où on produit beaucoup de légumes, enfin dans les zones de maraîchage. Or, les techniciens français leur ont dit non, ne réfléchissez pas du tout par rapport à un rendement, le même rendement que pour les légumes. Pour donner du grand vin, en effet, on doit trouver des terres quand même plutôt calcaires et qui donnent des rendements modérés. Alors, c'est peut-être pas une souffrance, mais en tout cas, on ne demande pas à la vigne des terres grasses comme pour planter des pommes de terre.
En tout cas, on souhaite bon vent à la vigne de Masrour, hein, dans ce terroir argilo-calcaire dans le Périgord. Et puis, bien sûr, pour l'été, on recommande donc votre texte, Laure Gasparotto, « Quand l'Orient inventait le vin, l'histoire méconnue des collines de Perse et de France », où vous rappelez que le vin est culturel et vous rappelez aussi, je vous cite, « L'idée du vin est presque plus importante que le vin lui-même. » Et puis on peut cet été relire on peut relire Omar Khayyam, Rafez et les autres ouvrages de Laure Gasparotto, notamment « Si tu veux la paix, prépare le vin ».
Qui est plus sur la Bourgogne d'ailleurs.
Oui, oui. Voilà Laure Gasparotto, merci. On aurait pu parler aussi un petit peu de vos origines, des parents venus en France, ayant quitté l'Italie, venus en France.
Oui, parce que c'est vrai que dans l'histoire de Masrour, je me suis un peu je me suis un peu identifiée, puisque j'ai pas l'histoire dramatique et tragique de celle de sa famille, heureusement pour moi. Mais en effet, moi-même, j'ai dû créer des racines françaises et le vin m'a vraiment aidé à m'offrir des racines en France, parce que grâce au vin, je rencontre toutes les tranches sociales de la France. Je peux rencontrer tous les paysans jusqu'aux milliardaires français qui possèdent des vignes. Et ça, j'adore, parce que le vin a est tellement transversale. Et ça m'ouvre, ça nous, me donne des racines et des ailes. Voilà.
Merci Laure Gasparotto, je suis très heureux de vous avoir accueilli devant le micro de Wagon Livre. Je rappelle donc, Quand l'Orient inventait le vin, c'est aux éditions Grasset. Pour celles et ceux qui auraient raté une partie de notre échange, eh bien on le retrouve sur le site internet, site d'archives de l'émission, yannickpetit.fr. Bel été à vous Laure Gasparotto, puis peut-être nous croiserons-nous le dernier week-end de septembre au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon, parce que je sais que vous y avez un rôle important. Vous êtes la présidente du jury du prix du Clos de Vougeot, c'est bien cela?
Voilà, c'est ça, sur les livres consacrés au vin. Donc ça ne sera jamais les miens, puisque je ne peux pas être jugé parti, mais en effet je serai au Clos Vougeot le dernier week-end de septembre.
Je souhaite un bon congé de fin de semaine à nos auditrices et auditeurs que je salue et remercie de nous avoir été fidèles. Bel été à vous Laure, et rendez-vous à Livre en Vigne donc.
Merci
Yannick. Événement créé par Evelyne Philippe. Au revoir à toutes et à tous et à samedi prochain, toujours sur Laure, sur
Radio Yonne. Radion.
Au revoir
Radion
à toutes
qui
et à
rayonne.
Tous.
Merci Yannick.